13h, 14h, tout terrain.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous connaissez le principe, Tout Terrain, c'est l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Et l'actualité cette semaine, c'est l'Église face aux victimes d'abus sexuels. Déjà plus de 2800 signalements recueillis par la commission qui a lancé un appel aux victimes pour sortir du silence. Témoignage bouleversant dans Tout Terrain de Marie-Claire. Elle s'est confiée à Virginie Riva. L'actualité de ce samedi, c'est bien sûr Berlin qui fête les 30 ans de la chute du mur. Mais que reste-t-il de ce symbole de la guerre froide? Hélène Kohl nous racontera que si le mur a quasiment disparu, il reste bien une division invisible à travers le langage, les accents et même le bruit de la chaussée. Et puis toute l'équipe du documentaire exceptionnel « Derrière le mur » que vous avez entendu toute la semaine dans le 18-20 sur Europe 1 sera avec moi en studio. Ils vont vous raconter comment ils ont trié, nettoyé 34 ans d'archives pour vous replonger au cœur de la guerre froide. On entendra des moments incroyables comme cette visite en France de Nikita Khrouchtchev qui arrête son cortège pour scier du bois. Voilà pour le programme. Tout terrain, c'est parti.
Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
Et pour commencer Tout Terrain, j'ai voulu revenir sur un témoignage très fort que vous avez pu entendre mardi dans la matinale de Mathieu Béliard, au moment où les évêques de France sont réunis à Lourdes. Marie-Claire a décidé de parler pour dénoncer le trop long silence de l'Église sur les abus sexuels, alors qu'une commission a lancé depuis un an un appel aux victimes pour témoigner.
Comment est-ce qu'on peut aller contre une personne qui se fait passer pour Dieu? Mais comment? C'est pas possible, j'aurais fait exposer la famille. Comme mon oncle faisait la messe, eh bien c'était un supplice pour aller à la messe. C'est horrible et personne n'a jamais rien vu.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour Fabienne.
C'est vous qui avez recueilli le témoignage de Marie-Claire dont on vient d'entendre un extrait et qu'on écoutera plus longuement dans un instant. Qui est Marie-Claire?
Alors Marie-Claire a 62 ans, elle s'est tue pendant 50 ans alors qu'elle a été abusée par son oncle qui était prêtre, qui a également abusé sa sœur et son frère. Elle n'a jamais raconté son histoire pendant plus de 50 ans, jamais raconté à son premier mari. Là-dessus, elle est très pudique, elle ne veut pas parler de sa vie privée. En revanche, ce qui lui importait, c'était de dire qu'elle faisait partie d'un collectif, le collectif Foi et Résilience. En fait, c'est un collectif de victimes qui travaille avec les évêques de France pour faire reconnaître la responsabilité de l'Église. Ils sont force de proposition et d'ailleurs, 4 de leurs représentants étaient à Lourdes cette semaine.
Alors pourquoi elle a accepté de témoigner? C'est justement suite à cette commission qui a été lancée il y a un an et qui a appelé les victimes justement à sortir du silence?
Oui, voilà. Elle a témoigné d'elle-même à la commission Sauvé et c'est cette commission qui m'a contactée pour me proposer son témoignage.
Rappelons un peu ce qu'est cette commission et comment elle a été mise en place il y a un
an. Oui, alors les victimes parlent, il y en a 2800 qui ont parlé à la commission Sauvé. C'est un travail qui est salué par la Parole Libérée, par exemple, l'association née après l'affaire du père Prénat. C'est une commission indépendante, ça c'est très important de le souligner. Les frais de fonctionnement sont pris en charge par l'Église de France, mais les membres, les 22 membres, ne sont pas salariés par la conférence des évêques. Sa lettre de mission, c'est faire la vérité sur les abus sexuels depuis 50 ans, partout en France, sur tout le territoire, dans tous les diocèses.
Alors, on va écouter un premier extrait du témoignage de Marie-Claire. Marie-Claire qui raconte les abus sexuels dont elle a été victime et surtout l'omerta autour de ce qu'elle a vécu.
Mon père prenait des photos, il mettait la date. Donc sur cette photo, j'avais 6 ans et là, je sais que c'était déjà commencé et ça s'est terminé à l'âge de 10 ans parce que mon oncle a été muté dans un tout petit appartement, ce qui fait qu'il ne pouvait plus nous violer. Les faits se sont déroulés dans le presbytère.
Quelle autorité il a utilisé? Est-ce que c'était précisément parce qu'il était prêtre?
Si tu parles, personne ne te croira. Il avait bien compris, il savait. C'est aussi simple que ça. Il savait très bien la puissance qu'il avait, donc il l'a utilisée. Mes parents étaient très croyants, enseignants dans l'enseignement catholique. Et il y avait une énorme admiration devant ce prêtre, donc j'étais coincée. Comment est-ce qu'on peut aller contre une personne qui se fait passer pour Dieu? Mais comment? C'est pas possible, j'aurais fait exposer la famille. Comme mon oncle faisait la messe, eh bien c'était un supplice pour aller à la messe. C'est horrible et personne n'a jamais rien vu.
À quel moment vous avez décidé d'en parler pour la première fois?
En 2004, mon frère s'est suicidé, il a laissé une lettre dans laquelle il expliquait que notre oncle l'avait violé, agressé, etc. C'est là que j'ai dit très vite fait à mes autres frères et sœurs que ma sœur, qui a un an plus que moi, et moi-même, avons été aussi touchés. Et elle est morte à 50 ans des suites de l'alcool, ce que moi j'appelle un suicide déguisé. Et là, ils m'ont pas cru. Vous vous rendez compte de toutes ces souffrances? Je vais vous dire, au bout de 50 ans, à un moment donné, il faut faire quelque chose, parce que soit on étouffe, soit on y reste. il faut une réparation, il faut un soutien, et ça, je ne l'ai jamais eu.
50 ans de silence, dit Marie-Claire. Comment s'est passée l'interview ?
Alors, je pense que c'était un moment très difficile, principalement pour elle, évidemment. Même si elle était déterminée à parler vraiment, on sent que c'est quelque chose qu'elle a réfléchi. Elle souhaite que son témoignage soit public.
D'ailleurs, elle vous a demandé un témoignage plus long qu'elle a posté, je crois, sur le site de la commission.
De la commission, exactement. C'est vrai que j'ai fait ça parce qu'elle voulait le mettre sur le site de la commission, précisément pour que d'autres victimes potentielles et silencieuses encore aujourd'hui soient amenées à témoigner. Pendant l'entretien lui-même, elle a eu des crises de panique sur certaines questions. Elle a dû ouvrir la fenêtre, prendre l'air, fumer des cigarettes. C'est vrai que c'était un moment pour elle très douloureux.
Est-ce que ce témoignage est emblématique des 2800 témoignages qu'a recueilli la commission ?
Alors oui, déjà de par son âge, elle a 62 ans et on sait que la majorité des témoignages actuellement rapportent des faits qui ont eu lieu dans les années 50, 60 et 70. Dans 88% des cas, il n'y a pas eu de procédure judiciaire, exactement comme pour Marie-Claire. Donc elle est vraiment emblématique de ces 2800 témoignages.
Je vous propose d'écouter maintenant un deuxième extrait du témoignage de Marie-Claire. Cette fois, elle vous a livré avec beaucoup d'émotion l'incompréhension qu'elle ressent toujours vis-à-vis de l'Église.
Je voudrais vous lire ce que Matthieu a écrit. Matthieu, chapitre 18, verset 6. Je vous demande de bien l'écouter parce que quand même, les évêques ont forcément lu ou entendu ce truc-là. « Si quelqu'un fait trébucher un de ses petits-enfants qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. » Comment on peut lire un truc comme ça, fermer les yeux sur des agressions, ne pas bouger quand il y a quelque chose, faire comme si on n'entendait pas, tant que ça ne sera pas réglé, jamais je remettrai les pieds dans une église. Il faut les vivre, ces phrases. Alors eux, ils sont représentants de Dieu, ils n'appliquent pas ça, il faut qu'ils se réveillent, c'est pas possible. Vous vous rendez compte de toutes ces souffrances ? Moi, mon frère, qui c'est qui va me le ramener ? Ma sœur, qui c'est qui va me la ramener ? Personne.
Oui, beaucoup d'émotions, une colère sourde. Elle dit qu'elle n'a pas remis les pieds à l'église. Pourtant, vous avez eu ce sentiment qu'elle croit toujours.
Une fois, je pense, mais alors dans l'église, je ne crois pas. Non, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est engagé dans le monde social en plus. Elle est sans doute dans le témoignage, c'est précisément ce qu'elle dit. Elle veut que, comme toutes les victimes, notamment de ce collectif, que la responsabilité de l'Église soit établie.
Alors justement, vous qui suivez depuis des années les questions de religion pour Europe 1, vous avez été en poste à Rome, auprès du Vatican. Vous diriez que les choses bougent ou que cette commission dont on a parlé, c'est juste de l'affichage ?
Non, je crois que cette commission, c'est une institution vraiment qui va faire bouger les choses. Elle est quand même présidée par l'ancien vice-président du Conseil d'État. C'est une personnalité...
Jean-Marc Sauvé.
Voilà, Jean-Marc Sauvé. Maintenant, ça c'est la commission Sauvé, c'est pas l'Église. Et cette commission a tardé, puisqu'elle est arrivée près de 2 ans après le scandale de l'affaire Barbarin. On sait que la conférence des évêques de France a commencé à se pencher sur le sujet dans les années 2000. Entre 2000 et 2019, il s'est quand même passé quasiment 20 ans.
Et où en est la France par rapport aux autres pays ? J'ai envie de dire, où en est le Vatican aussi, le pape lui-même ? On se souvient, vous aviez couvert pour Europe 1 un sommet sur la pédophilie, justement, au Vatican.
Alors, côté Vatican, on n'en est nulle part, quasiment, malgré les espoirs qu'a suscité le pape François. Il a fait un sommet mondial sur la pédophilie en février. Il a attiré l'attention sur le sujet, ça c'est sûr, mais aucun résultat concret depuis février. La France, elle, fait beaucoup depuis 2016, c'est très récent, c'est vraiment le scandale Barbarin. Elle fait beaucoup, alors elle fait beaucoup, beaucoup moins que les États-Unis, que l'Australie par exemple, où il y a une autre commission, mais cette-ci, c'est une commission d'enquête, d'investigation.
Donc il y a un vrai pouvoir judiciaire.
Il y a un vrai pouvoir judiciaire, ce qui n'est pas le cas de la commission Sauvé. Mais elle fait plus que, par exemple, les pays méditerranéens. On parlait d'Italie, j'y ai vécu, je peux vous dire qu'on ne parle pas de pédophilie dans l'Église en Italie, ni même en Espagne. C'est-à-dire des pays très catholiques. Là, la France est un peu plus avancée, mais elle n'est vraiment pas suffisamment avancée pour les victimes et du point de vue international.
Merci beaucoup Virginie Riva, je rappelle, spécialiste des questions de religion à Europe 1. La prochaine étape de la commission, je crois, c'est la remise d'un rapport. Ce sera en 2021, donc à suivre.
Europe 1.
À suivre, alors que Berlin fête aujourd'hui les 30 ans de la chute du mur, vous allez voir qu'il reste bien un mur invisible entre les deux parties de la ville. Ça passe par les accents, même les bruits de la chaussée. Et la division est ravivée par les dernières élections. Et puis longue séquence aussi sur les coulisses de ce formidable documentaire sonore Derrière le mur, qui nous a replongé dans la guerre froide à travers les archives exceptionnelles d'Europe 1.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Il est 13h13 et vous écoutez Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. On retrouve Fabienne Lemoyle.
Direction Berlin pour continuer tout terrain alors que la ville célèbre les 30 ans de la chute du mur. Justement, que reste-t-il de ce mur? Il n'est pas forcément là où l'on pense.
La ville n'est pas aussi divisée, mais elle voit encore beaucoup en double. Deux opéras, deux zoos, deux universités. Écoutez aussi les gens parler. À l'Est, on a gardé l'accent fort du vieux Berlin et certains mots sont différents. Par exemple, il y a deux façons d'appeler sa maman.
Mama.
Et puis, il y a toutes ces petites anomalies administratives que Berlin réunifié n'a pas encore tranché. À qui appartient Checkpoint Charlie, par exemple? En attendant, le mythique point de passage entre secteur russe et américain est envahi par les vendeurs de souvenirs déguisés en faux soldats. Berlin-Ouest, Hélène Kohl, Europe 1.
Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 à Berlin, ou plutôt, je devrais dire, correspondante d'Europe 1 à Berlin-Ouest, comme le dit la signature de votre reportage à l'instant dans la matinale. Pourquoi ce clin d'œil alors que la ville, on est clair, n'est plus divisée?
Non, mais ça reste effectivement la question de tous les touristes. On est où là? On est à l'Est ou on est à l'Ouest? Le mur fait venir énormément de gens à Berlin 30 ans après. Et donc, c'est pour ça que, à la fin de ce sujet, je me suis dit, c'est l'occasion de dire aux auditeurs que j'habite à Berlin-Ouest, en tout cas dans l'ancien Berlin-Ouest.
Voilà, bien noté. Alors, on l'a entendu, cet extrait de votre reportage diffusé cette semaine dans la matinale de Mathieu Béliard montre bien qu'il y a, j'ai envie de dire, comme un mur invisible entre les deux parties de la ville, parce que ce mur, autrement Hélène, on est clair, physiquement, il n'en reste pas grand-chose finalement 30 ans après.
Effectivement, et en fait ça se comprend, parce qu'en fait je vous renvoie à toutes ces images qu'on a pu voir cette semaine. Après le 9 novembre 89, les Berlinois, ils ne désiraient qu'une seule chose, faire disparaître au plus vite ce mur de la honte. Ils vont donc le démonter, alors pas pierre par pierre, puisqu'en fait il n'était pas fabriqué avec des briques ou des parpaings, c'était des panneaux de béton en forme de L, les uns à côté des autres, sur 155 km dans et autour de la ville. Et ils les ont fait disparaître. Et résultat, aujourd'hui, à Checkpoint Charlie ou bien à East Side Gallery, ce que vous voyez, ce sont soit des faux vestiges, des copies, soit comme pour le long tronçon décoré par des artistes, des morceaux rebétonnés au fil du temps et même parfois déplacés pour mieux s'intégrer à la circulation. Le mur, le vrai, c'est au mémorial de Bernauer Straße qu'on peut le voir. Je vous le recommande, c'est un musée en plein air, le long de l'ancien No Man's Land, très bien fait, très riche, très authentique surtout. Et on réalise vraiment ce que ça a pu signifier pour Berlin d'être divisé comme ça par ce rideau de fer et de sang.
Et on y reviendra dans un instant d'ailleurs avec le documentaire exceptionnel qu'on a entendu toute la semaine sur Europe 1, Derrière le mur, avec des archives de cette époque de la guerre froide. Alors, si le mur n'est plus là physiquement, Hélène, vous qui avez parcouru la ville, on l'a entendu, tout rappelle dans le langage, les accents entre autres, que ce mur a existé, est encore un peu là.
Alors, j'ai posé la question à tous les Berlinois avec qui j'ai parlé cette semaine, à l'occasion de cette semaine de commémoration. Alors, le mur, il est tombé, mais est-ce que la ville est réunifiée selon vous? Eh bien, réponse unanime des Berlinois, non. Il n'y a plus d'opposition frontale entre les deux blocs, c'est plus la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, mais on sent qu'il y a encore vraiment deux Berlin. Alors, j'aime bien vous raconter cette anecdote, Fabienne, parce qu'en 2017, depuis l'espace, depuis la Station Spatiale Internationale, notre astronaute français Thomas Pesquet a posté une photo qu'il avait prise de Berlin la nuit. Et là, c'était absolument dingue, parce qu'on voyait passer le mur.
C'est-à-dire...
à l'Ouest. À l'Ouest, en fait, l'éclairage public est plus blanc, plus intense, tandis qu'à l'Est, il est plus diffus et plus orangé. Et donc, en 30 ans, on n'a pas changé tous les lampadaires. Et donc, de nuit, on voit Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il y a aussi des sons différents dans la ville. La cloche du tram, par exemple, ça, c'est Berlin-Est, parce que l'Ouest, lui, avait organisé son réseau de transport plus autour de la voiture individuelle. Et donc, il n'y avait pas de ligne de tramway. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les pavés aussi des rues ne sont pas joints avec le même mastic. Et donc, quand vous passez en vélo, ça ne fait pas les mêmes vibrations, les mêmes petits bruits. L'Est, effectivement, on l'a entendu dans le reportage, parle encore avec cet accent typique du vieux Berlin. Ils disent, par exemple, Ich au lieu de Ich ou Jut au lieu de Gut. Ça, on l'entend beaucoup moins, quasiment plus à l'Ouest. Et puis, parfois, sur un marché aux puces, soudain, la RDA vous saute au visage. C'est l'expérience qu'a faite André récemment en achetant un vieux bureau d'écolier.
J'ai ouvert ce tiroir et l'odeur de Berlin-Est m'a sauté au nez. Un parfum, un peu d'usine, d'huile de moteur et de cire. Quand je sens ce tiroir, je pense tout de suite à ma scolarité en RDA, quand on avait un cours d'introduction à la production socialiste. Tout ça jaillit de ce meuble qui n'avait plus servi depuis les années 80.
Incroyable ces sons et ces odeurs qui font ressurgir ce mur qui donc n'est plus là. Mais il y a un vrai commerce qui s'organise autour de son souvenir. On marque une pause et vous restez avec nous, Hélène Kohl. Vous allez nous raconter comment le mur est devenu une vraie attraction touristique.
Jusqu'à 14h, nous sommes avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1. C'est Tout Terrain, l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte.
Retour dans tout terrain sur les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Vous nous racontiez, Hélène Kohl, il y a un instant qu'il ne restait quasiment rien de ce mur. En revanche, il y a tout un commerce qui s'est organisé autour. Ça se traduit comment ?
Ah oui, clairement, il y a un business du mur comme il y a un business de la RDA. Alors, pour 60 euros, on peut louer une Trabi, vous savez, cette petite voiture de l'Est pour faire un tour dans la ville. Il y a aussi plusieurs musées privés sur le créneau, qui sont d'ailleurs pas tous mauvais, comme le musée de l'espionnage. Alors, je vous ai parlé de Checkpoint Charlie. Alors, en 30 ans, la ville, ça aussi, c'est assez dingue, n'a toujours pas tranché à qui appartenait le terrain. Du coup, il est la proie à toutes sortes de vendeurs de souvenirs. J'appelle ça un petit peu le Disneyland de la guerre froide. Alors, on paye 1 euro pour se faire tamponner le passeport, 1 euro pour faire une photo avec un type vaguement déguisé en soldat. On peut acheter des bouts de mur, des médailles soviétiques. Cette semaine, la mairie a fait un arrêté pour éloigner tout ce petit monde du site historique, pour ne pas heurter les témoins de l'époque qui sont là exprès pour les commémorations, pour ne pas heurter les victimes aussi, ou bien les proches des gens qui sont morts au pied de ce mur en tentant de le traverser.
Alors on entend, Hélène, que cette marchandisation du mur et de sa commémoration ne passe pas forcément bien. Comment les Allemands ont d'ailleurs décidé de célébrer la chute du mur, qui était donc il y a 30 ans ?
Alors, il y a 10 ans, en 2009, il y avait eu une grande cérémonie avec des chefs d'État à la porte de Brandebourg. Et cette option a été très vite écartée par les organisateurs cette fois-ci. Écoutez le responsable des festivités.
Je crois que les temps ont changé. Nous ne pouvons pas du tout envisager de fêter la chute du mur de Berlin avec des gens comme Trump ou Poutine. Des chefs d'État qui ne s'engagent pas pour l'unité de l'Europe et qui, au contraire, encouragent la division. Prenez Boris Johnson en Grande-Bretagne, c'est assurément une autre politique que celle de Gordon Brown il y a 10 ans. C'était incompatible.
Et puis les élections dans les régions de l'Est cet automne, Fabienne, avec l'extrême droite à 20-25%, qui a fait campagne en jouant sur les vieux ressentiments, en récupérant, en instrumentalisation la mémoire de 89. Tout ça a montré combien le pays était encore divisé. En 10 ans, vous savez, ce fameux mur dans les têtes, il a été recimenté. Il y a même franchement parfois de l'animosité entre les habitants de l'Est et ceux de l'Ouest. Autant en 2009 ou même en 2014 pour les 25 ans, les gens avaient vraiment le cœur à la fête. Autant j'ai senti ici cette semaine plutôt de l'amertume autour de ces commémorations. Et la tâche n'était pas facile pour les organisateurs qui ont pris le parti, donc assez intelligemment, de faire redescendre cette mémoire dans la rue. Pas d'historiens, pas de grands discours, pas de grands témoins. Un peu partout, par contre, dans la ville, des petites expos, des projections, des films, des concerts pour que les gens se réapproprient ce moment incroyable qu'a été cette révolution pacifique de 89 et la chute du mur de Berlin.
Du coup, ça s'est passé comment concrètement ? En se replongeant virtuellement, je crois, dans le Berlin d'avant 1989, racontez-nous.
Oui, effectivement. Le plus spectaculaire, ce sont en fait des projections en 3D sur certains bâtiments de la ville. Par exemple, à l'Alexanderplatz, tous les soirs depuis lundi, on peut revivre la chute du mur.
Il y a de la nostalgie dans l'air et on se rappelle soudain quelle force il peut y avoir dans la rue. Je l'avais presque oublié car nous vivons maintenant à l'époque du numérique, mais être tous ensemble par milliers dans la rue, c'est formidable. On défilait en criant aux gens aux fenêtres d'éteindre leur télé, de nous rejoindre, et beaucoup le faisaient vraiment.
Puis il y a aussi comme une sorte de chasse au trésor dans la ville avec des QR codes dans les rues. Et puis avec grâce à une application, le mur se dresse tout d'un coup en 3D devant vous via votre téléphone portable. Vous rentrez à nouveau, par exemple, dans cette église Gethsemane où la dissidence est-allemande se réunissait en faisant semblant de se retrouver pour des veillées aux bougies. C'est assez impressionnant, même si la mer de bougies, elle est juste sur le tout petit carré de votre smartphone. Ça manque un petit peu d'émotion quand même.
Il y a une chose qui m'a intriguée, c'est ce qui s'est passé lors de la conférence de presse que vous m'avez racontée, parce que certains ont tiqué en disant que ça leur rappelait la Stasi.
Oui, parce que pour que ça marche, tout ce 3D, il faut passer par Facebook, télécharger l'application, et ça braque pas mal d'Allemands qui sont d'une manière générale plutôt hostiles au stockage des données, et d'autant plus avec le traumatisme de l'espionnage en masse de la police politique de RDA, cette fameuse Stasi. Alors pour contourner le problème sur place, les organisateurs mettent à disposition des tablettes, mais honnêtement, ça fait plutôt un flop. D'une manière générale, cette semaine de commémoration n'a pas reçu l'engouement escompté, la météo n'était pas très bonne. On attend quand même 100 000 personnes ce soir à la porte de Brandebourg pour le spectacle final, une sorte de son et lumière avec des artistes pop, un orchestre classique dirigé par Daniel Barenboim, des DJ et puis à la fin, bien sûr, un feu d'artifice au-dessus de la porte de Brandebourg devant laquelle passait ce fameux mur et qui est devenu aujourd'hui le symbole de la liberté retrouvée.
Merci beaucoup Hélène Kohl et restez avec nous parce que dans un instant, on plonge au cœur de la guerre froide avec le mur de Berlin qui en a été le symbole justement. On va vous raconter les coulisses du documentaire sonore exceptionnel que vous avez pu entendre tous les soirs dans le 18-20 sur Europe 1 cette semaine. Derrière le mur, 5 épisodes de 20 minutes réalisés avec les archives d'Europe 1, des heures et des heures d'écoute pour dénicher des pépites. Sophie Larmoyer, Didier François et Sébastien Guidis, qui a mis en onde ce documentaire, seront avec moi en studio.
On retrouve Fabienne Lemoelle pour la suite de Tout Terrain, il est 13h29.
Toute la semaine, Europe 1 vous a proposé une incroyable plongée au cœur de la guerre froide à travers les archives exceptionnelles de la radio à l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin. La guerre froide, comme si vous y étiez.
Europe 1. Ich bin ein Berliner. 1955-1989. Derrière le mur.
D'est en ouest, on ne passe plus.
Berlin, 13 août 1961. Stupeur au réveil pour les habitants. Une sorte de mur a été érigé dans la nuit, l'Est séparé de l'Ouest. Claude Guillaumin est le correspondant d'Europe 1.
Berlin est vraiment coupé en deux. Le rideau de fer est tombé à la limite du secteur soviétique et des secteurs occidentaux. Un rideau de fer constitué pour durer.
Voilà, le décor est planté pour réaliser cette plongée sonore vraiment exceptionnelle. On va y revenir, mais je dois dire que la visite à Paris de Nikita Khrouchtchev, qui arrête son cortège, les entend déjà sans souvenir pour couper du bois, ou le discours de Kennedy sur l'homme qui doit aller sur la Lune, traduit par Pierre Benmar. C'est vraiment des moments incroyables. Et donc, vous les avez déjà entendus. C'est toute une équipe qui a écouté des heures et des heures d'archives, qui a user ses oreilles, comme m'a dit l'un d'entre eux, et que j'ai voulu inviter dans Tout Terrain cette semaine pour qu'il nous raconte les coulisses de ces 5 épisodes de 20 minutes de ce documentaire Derrière le mur. C'est pour cela que j'ai le plaisir d'accueillir un trio en studio. Sophie Larmoyer, spécialiste de politique étrangère qui vous fait visiter la planète chaque dimanche à 13h dans les Carnets du Monde. Bonjour Sophie.
Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Didier François, on a déjà entendu son rire sonore, grand reporter, spécialiste des questions de défense que vous retrouvez chaque soir dans le 18-20 pour sa chronique Demain le Monde. Bonjour Didier.
Bonjour.
Et puis le metteur en ondes qui nous avait déjà régalé avec les archives de mai 68 pour la révolte sur les ondes, Sébastien Guidis, producteur. Bonjour Sébastien.
Bonjour Fabienne.
Alors déjà Sophie Larmoyer, comment on s'y prend quand on se retrouve face à 34 années d'archives, parce que Europe 1 est né en 55, on imagine, si on était remonté vraiment au début de la guerre froide.
Alors je vais commencer par parler pour les absents, ceux qui ne sont pas autour de cette table, ce sont les documentalistes d'Europe 1, parce que c'est eux qui ont commencé le boulot dès mars dernier. Ils se sont plongés dans les grimoires, ce que j'appelle les grimoires d'Europe 1.
Vous êtes venu avec vos cahiers.
Exactement, je suis arrivée avec deux cahiers. Ce sont donc des agendas, des cahiers où quotidiennement, tous les documentalistes dans l'histoire d'Europe 1 depuis 55 ont consigné ce qui passait sur les ondes, dans les journaux.
Le premier, c'est ça, du 21 janvier 55.
Voilà, faites attention à l'ouvrant, il est fragile.
Je vois ça. Voilà, élection cantonale, je prends Edgar Faure, inauguration Orly, Paris-Nyon.
Bon, ça c'est le tout premier.
C'est tout premier.
Et puis je vous ai apporté aussi celui de 1989, qui est beaucoup plus gros, et qui est celui dans lequel sont consignées toutes les archives de la chute du mur de Berlin en 89, et dans lesquelles on a pioché. Donc ils nous ont proposé plus de 400 archives qu'on a écoutées avec Didier François et Sébastien Guidis. Donc en tout, il y a environ 500 archives sur lesquelles on a pu travailler et sur lesquelles il a fallu faire des choix un peu drastiques parfois.
Oui, particulièrement impressionnant. Et l'idée, on va l'entendre d'ailleurs en écoutant des extraits, c'était pas d'être exhaustif. C'était de mettre en valeur donc des pépites qui ont été préservées par notre service de documentation dirigé par Sylvain Denis. On va prendre un premier exemple. On est le 4 novembre 1956. Gilbert Lauzin, reporter à Europe 1, est à la fenêtre de sa chambre à Budapest quand les troupes soviétiques encerclent la ville et que les chars pointent leurs canons sur l'hôtel d'Una où ils logent.
Ils viennent tirer une rafale de mitrailleuse. On essaye de voir en se mettant un peu au-dessus de la fenêtre, mais je vous avoue que c'est extrêmement dangereux.
Un deuxième char le suit de près.
Oui, mais ça, écoute, il vaut mieux pas qu'on va se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. Oui, je viens. Tire la mitraille, vous entendez les balles qui claquent contre le mur. Il vaut mieux se baisser, oui, je crois. Voilà. Je suis en train de tirer sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone.
Oui, on comprend qu'il arrête effectivement le magnétophone, c'est absolument incroyable, on a l'impression qu'on est en plein direct, pourtant c'est pas le cas Sophie.
Alors c'est pas le cas parce qu'en fait il fait tourner, il est là avec des confrères dans l'hôtel, il fait tourner et puis il y a cette séquence en fait sans montage et heureusement qu'il a pas coupé dedans et que c'est sans montage. Après il transmettait par téléphone, donc il fallait trouver un téléphone dans des conditions, vous avez compris, insurrectionnelles pas très simples, et puis avec des bidouilles comme on disait à l'époque. On envoyait le son par téléphone, puis ensuite on le rapportait au propre, comme on dit dans notre jargon, quelques semaines plus tard quand on rentrait à Paris.
Alors Didier, je vous voyais, je vous laisse pantois, vous qui êtes allé sur des terrains de guerre.
Oui, c'est ça, voilà, on s'y retrouve, on voit bien, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on s'inscrit dans cette histoire du reportage de guerre, où on voit bien que nos anciens, déjà, étaient vraiment sur le terrain, vraiment au cœur de l'action, faisaient tourner les magnétos. En fait, honnêtement, rarement pendant les combats, on se met en direct, hein, parce que c'est pas tellement possible. En général, on n'a pas d'électricité, ça court dans tous les sens, et les gens n'ont pas particulièrement envie de nous avoir sur place.
Absolument. Sébastien Guidis, on a travaillé ensemble sur mai 68, c'était un mois d'archives, là on l'a dit, c'est 34 années d'archives. Du coup, c'est conservé d'ailleurs sur quel support ces archives ?
Alors en fait, Sophie parlait d'effectivement, on avait une sélection de 500, mais la vraie base d'archives, c'est à l'heure actuelle, il y a 43 500 bandes magnétiques, il y a 30 000 cassettes audio.
À la cave.
À la cave, et il y a 3800 DAT, les Digital Audio Tape.
Et tout ça n'a pas été spécialement numérisé. On les numérise au fur et à mesure,
en fonction des demandes.
Alors, Sébastien Guidi, c'est vous qui avez mis en onde, on va voir.
C'est lui qui a usé ses oreilles.
Usé ses oreilles, exactement. C'est lui, vous l'avez bien dénoncé.
J'ai perdu une oreille.
Qui dit archive ancienne dit forcément tout un travail de nettoyage. On va écouter avant-après, tendez bien l'oreille. D'abord un court extrait, ça dure 7 secondes, une archive de 1960 quand Nikita Khrouchtchev visite Paris.
Nous apprenons à l'instant que le général de Gaulle va vous envoyer des motocyclistes pour vous demander si vous voulez bien venir à l'Élysée.
Qu'est-ce qui vous chiffonne là-dedans, Sébastien ?
Ah bah là, il y a juste une fréquence dans les aigus qui me transperce l'oreille.
C'est une oreille d'or.
Plus après, des petits bruits de bandes. Et ce qui est tout à fait logique, pour juste expliquer, c'est qu'à l'ère de l'analogique, la durée des bandes magnétiques, c'était dans une énorme conservation. C'est 30 ans, mais sinon, c'est de 10 à 20 ans. Donc, il fallait ces bandes, il fallait les recopier. Et en les recopiant, en fait, on a rajouté du souffle et des bruits parasites. Et donc, on peut les écouter, mais c'est plus agréable maintenant, avec nos instruments numériques, de faire du grand nettoyage.
Alors, comment on intervient justement, Sébastien, pour que ce soit audible ? Comment on nettoie concrètement ?
En fait, clairement, on essaye d'analyser. Par exemple, là, il y avait beaucoup de sons qui se passaient au téléphone. Donc là, on peut avoir des fréquences dans les aigus à une donnée bien précise. C'est-à-dire, nos logiciels nous permettent de localiser la fréquence qui gêne et on va l'atténuer pour la faire disparaître.
On va écouter du coup le résultat après nettoyage.
Nous apprenons à l'instant que le général de Gaulle va vous envoyer des motocyclistes pour vous demander si vous voulez bien venir à l'Élysée.
Et voilà, il est plus là, effectivement. Alors,
forcément,
parasite.
C'est un peu une alchimie parce qu'on va, perdre un petit peu de la qualité en fonction. Et puis, il y a des très bonnes bandes aussi, hein, bien conservées. Mais là, sur la globalité des 500 extraits, voilà,
il y avait
un peu de travail.
Et qu'est-ce qui vous a donné le plus de fil à retordre ?
Le fait que j'ai perdu l'usage d'une de mes oreilles au bout de 2 semaines de nettoyage parce que j'ai travaillé un peu trop fort dans ces fréquences. Et voilà, quoi.
Vous restez avec nous, on continue à vous raconter les coulisses de ce documentaire vraiment exceptionnel derrière le mur que vous avez pu écouter toute la semaine sur Europe 1 dans le 18-20. Je vous rassure, Sébastien Guidis a bien récupéré son oreille, son oreille d'or, comme disait à l'instant Didier François. Et on va prendre toute la mesure du travail de mise en onde en écoutant un reportage de Julien Besançon pendant la guerre du Vietnam. Ce sera dans un instant.
Chaque samedi sur Europe 1, on prend le temps de revenir sur les événements marquants de la semaine, y compris sur nos ondes. Tout terrain se poursuit jusqu'à 14h avec vous, Fabienne Lemoyle.
Retour dans Tout terrain sur les coulisses de ce documentaire exceptionnel derrière le mur que vous avez pu entendre toute la semaine sur Europe 1 dans le 18-20. Un documentaire qui nous a replongé au cœur de la guerre froide à travers les archives d'Europe 1. Toujours avec moi, une partie de l'équipe qui a donc usé ses oreilles sur plus de 500 archives. Sébastien Guidi, Sophie Larmoyer, Didier François. Je le disais, pour qu'on prenne bien la mesure, Sébastien Guidis, du travail que vous avez fait pour restituer une qualité sonore à ces archives, on va écouter un extrait de ce reportage réalisé par Julien Besançon. Hein, Sophie,
Julien Besançon,
on est en 1968 et il suit les combats de la guerre du Vietnam aux côtés des GIs américains.
Mais l'offensive américaine s'enlise dans cette jungle où Julien Besançon, pour Europe 1, accompagne au plus près les GIs au combat.
C'est un fusil mitrailleur qui est là, 100 mètres à gauche, derrière des filaros, derrière des arbres dont les feuilles sont comme des toiles d'araignée. On a reçu des tirs un peu toute la journée. Il semble bien que l'unité Vietcong soit dans la forêt, environ 1500 mètres devant nous.
Ah non. pourquoi, Sébastien Guidis, cet extrait de l'épisode 3 derrière les murs qui montre que la guerre froide entre les deux blocs, ce n'était pas uniquement effectivement un affrontement direct, évidemment, entre les Russes et les Soviétiques, pardon, et les Américains, mais aussi des conflits régionaux. Pourquoi cette séquence, elle est emblématique du travail que vous avez fait en rajoutant des sons?
Parce que effectivement, sur le fait que Didier nous présente cet extrait, je voulais que Didier soit déjà dans la jungle, aux côtés de Julien Besançon et les GI. Et ce travail-là se fait simplement avec Didier qui pose sa voix doucement, mais aussi qu'on entende, qu'on soit déjà immergé dans la jungle.
Et on va écouter justement cette immersion sans la voix de Didier François.
Et sans la musique.
Donc ça, c'est pour acclimater, on a envie de dire, l'auditeur par rapport à l'endroit justement où se trouve le reporter d'Europe 1 à ce moment-là.
Exactement.
Même si ce n'est pas un son qui a été capté par le reporter d'Europe 1.
Non, mais la qualité sonore de l'extrait est vraiment hallucinante. On entend les bruits de la jungle, ouais. Julien parle tout doucement, la respiration.
Alors là, parfois c'est... aussi, c'est pour se mettre dans l'ambiance. Au moment de la chute du mur, Sébastien nous a fait une très belle chute de mur. C'est évidemment pas le mur de Berlin qui tombe à ce moment-là, tout le monde le comprend, mais c'est pour comprendre l'idée de ça y est, le mur s'écroule. On est tout de suite dans l'ambiance et qu'on comprend l'enjeu parce qu'on nous a mis, d'un point de vue sonore, dans une ambiance et dans un contexte.
Didier, vous qui êtes la voix justement de cet épisode 3, Sébastien me disait que ça l'avait surpris de voir qu'un reporter français puisse être embedded avec des soldats américains alors qu'on est en pleine guerre du Vietnam et que ça ne va pas forcément tourner à l'avantage, on le sait, des Américains.
Oui, mais justement, à l'époque, jusqu'en 75, donc jusqu'à la défaite, il n'y avait aucun problème pour accompagner les troupes américaines au combat, quelle que soit la nationalité. Il y a eu une appareil 75, justement, les Américains ont pensé que la presse avait été responsable de la défaite partiellement, par le fait que l'opinion publique avait décroché. Mais en 91, à partir de la guerre du Golfe, en fait, la première guerre du Golfe, il y a un retour de l'embed. C'est d'ailleurs de là que les gens parlent de embed. Avant, on était accompagné.
On va traduire, alors, ça veut dire...
Embed, c'est être à l'intérieur, accompagner les soldats, c'est au lit avec. Mais enfin, bon... non, je rigole. Mais, mais donc, en fait, maintenant, on le fait sans aucun problème. Depuis 91, enfin, moi, j'ai à plusieurs reprises accompagné les Américains au combat, en Afghanistan, en Irak, etc. Maintenant, il y a une grande facilité, quelle que soit la nationalité, à suivre les Américains, y compris parfois sur des opérations un peu compliquées, où il est plus difficile d'accompagner les armées comme l'armée française que l'armée américaine.
Ce qui est marquant, en fait, aussi, dans ces 5 épisodes, et ce qui m'a vraiment marqué, c'est de voir, et on a commencé déjà à en parler, dans quelles conditions les reporters travaillaient à l'époque. Et alors moi, il y a vraiment une séquence que je trouve incroyable. C'est 1960, Nikita Khrouchtchev est en visite à Paris pour un sommet international où il se fait désirer. Et on va écouter la suite.
Sur la route de Cézanne, M. Khrouchtchev descend de voiture car un arbre abattu obstrue la route. Il va sans doute voir les travailleurs qui sont en train de débiter cet arbre à coups de hache. Bonjour, dit M. Khrouchtchev. M. Khrouchtchev prend la hache. M. Khrouchtchev s'amuse beaucoup.
Oui, j'étais ouvrier moi-même.
Mais ça se voit qui sait s'en servir d'une hache.
La séquence qui suit est inimaginable aujourd'hui. Nous sommes donc en mai 1960. Nikita Khrouchtchev sillonne la campagne française pendant que les chefs d'État alliés l'attendent à Paris. Et en toute simplicité, le reporter d'Europe 1, Julien Besançon, s'approche du leader russe et l'interpelle avec son micro.
Monsieur Khrouchtchev, monsieur le président, nous apprenons à l'instant que le général de Gaulle va vous envoyer des motocyclistes pour vous demander si vous voulez bien rentrer à Paris pour assister probablement à une séance de la conférence au sommet. Qu'allez-vous faire maintenant ?
Я ничего не знаю, кроме того, что вы мне сказали.
Vous êtes le premier à m'annoncer cette nouvelle, je n'en sais rien.
Mais moi, j'en reviens toujours pas, effectivement. Est-ce que Sophie Larmoyer et vous, Didier, qui avez suivi des visites officielles, vous imagineriez aujourd'hui coller votre micro sous le nez de Trump ou de Poutine ?
C'est
Didier,
impossible,
Sophie ?
C'est impossible, on ne peut pas approcher, évidemment, d'abord. Le nombre de médias a explosé, donc il n'en est absolument pas question. Et puis, les moyens de communication sont complètement différents. Donc, apprendre quelque chose à un chef d'État, c'est juste inimaginable, quoi.
Et puis, il y a une prise de distance de la part des politiques à l'égard de la presse qui est quand même très, très forte. Avec en plus une volonté de contrôler beaucoup plus ce qui sort.
Le message.
Et donc en général, s'ils font venir quelqu'un, ils ont en tête l'idée de vous faire porter un message. Là, Nikita Khrouchtchev l'a fait fait exprès. Il exigeait des excuses américaines après le survol de l'espion, de l'avion espion U-2. Il ne les obtenait pas et donc il boudait en se baladant un peu partout et en montrant ostensiblement à la presse qu'il boudait.
Mais ça, ce sont des vraies découvertes dans les archives. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un personnage, on l'a lu, on l'a lu dans nos livres d'histoire et tout. Mais quand vous entendez Khrouchtchev qui prend la hache, qui coupe l'arbre pour dire « ouais, moi j'ai été ouvrier », quand il rencontrait des Parisiens, il demandait aux gens « votre femme travaille ? Ah oui, vous êtes bien logé, c'est cher, vous êtes payé combien ?» Enfin, voilà,
c'était
il y a vraiment
un très bon communicant, voilà, monsieur Khrouchtchev,
avec un message politique, évidemment, derrière.
Allez, on marque une pause et on poursuit dans un instant cette plongée exceptionnelle au cœur de la guerre froide à travers les archives d'Europe 1.
Il est 13h49 et on retrouve Fabienne Lemoelle pour la dernière partie de Tout Terrain, largement consacrée aujourd'hui aux 30 ans de la chute du mur de Berlin.
Retour dans Tout Terrain sur les coulisses de ce documentaire exceptionnel derrière le mur que vous avez pu entendre toute la semaine sur Europe 1 dans le 18-20, qui nous a replongé au cœur de la guerre froide à travers les archives d'Europe 1. Toujours avec moi en studio, Sébastien Guidis qui a mis en onde ce formidable documentaire, Sophie Larmoyer et Didier François. Je le disais, ça nous a replongé au cœur de la guerre froide avec des moments incroyables qu'on revit, du premier homme sur la Lune qui témoigne que derrière la course à l'espace se jouait aussi une course à l'armement. Plein d'histoires qui font la grande histoire. Je pense particulièrement à l'espionnage avec ce récit en 1970 de la France qui découvre que son ambassade à Varsovie est truffée de micros.
C'est plus que truffée, c'est infernal.
Voilà, c'est le député Jacques Marette qui l'explique sur Europe 1. On l'écoute.
Il s'agit d'un véritable réseau construit avec le bâtiment de façon aussi permanente et stable que les adductions d'eau, l'électricité, le gaz ou le téléphone, pour durer avec des raffinements, puisque dans certains bureaux, en particulier celui de l'ambassadeur, on pouvait écouter en hi-fi, en son stéréophonique. Et je ne leur veux pas de mal, mais je souhaite que le chef des services de contre-espionnage de ce pays soit appelé à tamponner les visas à quelques postes frontières lointain, montagneux et désolé de son propre pays, pour ne pas dire autre chose.
Je vous vois sourire, Didier. Pourquoi ?
Parce que je le vois déjà en train de casser ses cailloux à Varkuta. Mais en fait, je pense qu'il a été décoré pour ça, le gars en question. La guerre froide, ça a été le grand jeu de l'espionnage, avec deux immenses services de renseignement, la CIA et le KGB, qui sont d'ailleurs plus que ça, sont des organes de sécurité complets, mais qui étaient aussi, pour le KGB, de la sécurité intérieure et de la répression. Il faut bien se mettre en tête cette espèce de parité nucléaire qui empêche la guerre, puisque les États-Unis et l'Union soviétique ont la capacité de détruire la planète plusieurs dizaines de fois. Tout affrontement doit être indirect. Et l'espionnage est évidemment le grand moment avec les transfuges, les recrutements, les échanges. Enfin voilà.
Ce qui est marquant en tout cas, c'est qu'à travers ce documentaire, il ne manque rien. C'est-à-dire que tout de la petite et de la grande histoire de la guerre froide, vous l'avez retrouvé, Didier.
Tout y est. C'est-à-dire qu'on voit que les reporters d'Europe 1, et c'est ça l'ADN de cette radio, enfin, étaient partout, tout le temps au bon endroit, au bon moment. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que ça soit effectivement l'homme dans l'espace, on a le meilleur spécialiste qui commente en direct, que ça soit la crise des missiles de Cuba, que ça soit, je sais pas moi, tous les grands événements, on a tout trouvé.
Autre moment fort, c'est dans l'épisode 4, les peuples qui se réveillent, avec comme en Pologne la création du syndicat Solidarność à Gdańsk. Un moment incroyable aussi, le leader Lech Wałęsa qui fait un club de la presse dans son appartement, c'est ça Sophie ?
Absolument, oui, dans le petit trois pièces à Gdańsk où il y a Lech Wałęsa, sa femme et ses six enfants.
Il y a un reportage édifiant, je dois dire, de la révolte qui gronde, c'est celui de Philippe Lefay. On est donc en 1981.
C'est très bien les malades, c'est très bien les hôpitaux auxquels on donne les dons qui affluent, on ne leur donne qu'à eux. Mais nous qui travaillons, est-ce que nous devons crever ? Jusqu'à présent, j'ai perdu 12 kilos. Combien je peux maigrir ?
Est-ce qu'il y a d'autres produits, les vêtements, est-ce que ça manque ?
Ça manque terriblement.
Du papier hygiénique, on m'a dit.
Ah non, c'est introuvable. Tout manque.
Et on entend vraiment avec cette archive la sonorisation de Sébastien Guidis. Hein,
ouais, ce piano qui dramatise un petit peu, enfin, qui nous fait prendre conscience aussi du moment poignant, les gens qui nous disent qu'ils ont faim. Et c'est ça aussi qui est frappant, c'est de se dire que la grande histoire, avec un grand H, elle se fait avec les discours de Kennedy. Il y en a un formidable, nous devons aller sur la Lune parce que c'est difficile.
Pierre Bellemare. Au point qu'on n'entend même plus la voix de Kennedy.
Ça se fait par ces grands moments-là. Et puis ça se fait aussi par des témoignages comme cela, de gens de de la rue qui explique que bah, le prix de la viande, les pénuries, les machins, c'est ça aussi qui fait ce bouillonnement et qui fait qu'à un moment donné, les peuples se lèvent et disent bah non, c'est pas possible, c'est plus possible ce système-là. Et on comprend à travers ces témoignages-là aussi que la grande histoire se fait par ce quotidien-là qu'on entend et que la radio permet d'entendre. Tous les témoignages ou les papiers, etc. sont longs. C'est-à-dire qu'on prend le temps, à l'époque, de raconter, de laisser traîner son micro. Et ça, c'est vraiment très frappant quand on écoute comme ça des archives au long cours.
On va terminer avec deux archives qui vous ont marqué. D'abord, ce papier de Gilles Schneider. On est à Prague pour les obsèques de Jan Palach, cet étudiant qui s'est immolé par le feu en plein centre-ville, place Venceslas, pour dénoncer l'invasion du pays par les forces du pacte de Varsovie après le printemps de Prague. On est en 1969.
J'ai retrouvé la ville comme je l'avais laissée. J'ai retrouvé ce qui n'était plus que des souvenirs. Des affiches placardées sur les murs, des croix, des milliers de petites bougies autour de la statue Saint-Venceslas. En face, le mur du musée criblé de balles, souvenir du mois d'août. Il fait nuit, il fait froid, la neige recouvre les toits dorés de la vieille ville. Jusqu'à samedi, m'a dit un étudiant, c'est la veillée funèbre de Jan Palach, mais après...
Ça donne la chair de poule, me dit Kevin Ousty, qui réalise Tout Terrain. Et je crois que d'ailleurs, vous avez été, Sébastien et Sophie, en tout cas, saisis par cette émotion.
Il y a un rythme dans l'écriture, on dirait presque des vers. En fait, ce ne sont pas des vers. Et plus la petite guitare que nous met Sébastien par-dessus, etc. Effectivement, ça vous prend aux tripes, quoi.
On va terminer cette séquence de Tout Terrain avec cette soirée folle de la chute du mur. Et c'est André Ancian, qui était correspondant, je crois, d'Europe 1.
Correspondant à Bonn.
À Bonn, donc la capitale allemande à l'époque.
Il a passé pas mal de temps à Berlin.
1989. Et qui raconte cette soirée folle et cette nuit qu'il n'imaginait pas.
J'ai sans doute vécu la nuit la plus extraordinaire, la plus exaltante de ma vie depuis la libération de la France. J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin. Lorsque la télévision annonce l'ouverture des frontières, et c'est à 21h seulement que les premiers se risquent à franchir le mur. Un couple qui passe, le visage baigné de larmes. Et puis, d'autres 100 artistes à leur tour. Et c'est la ruée. Des centaines de voitures, des milliers de gens à pied se présentent au point de passage du mur où je me trouve, dans un concert d'avertisseurs et de cris d'allégresse.
Voilà, et c'est cet anniversaire qu'on célèbre justement à Berlin, encore ce soir, devant la porte de Brandebourg, avec un grand feu d'artifice. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus partager avec nous cette épopée sonore à travers, on le rappelle, quand même 34 ans d'archives d'Europe 1. En un mot, vous allez en retenir quoi, Sophie ?
Moi, je me demande si on pourrait faire les mêmes documentaires sonores avec les archives d'une radio de Moscou. Et ça pourrait être pas mal. Ça serait une autre histoire.
Ça, Didier. C'est une autre histoire, ça s'appelle de la propagande.
Et on va redire encore aussi un grand bravo au service documentation d'Europe 1 emmené par Sylvaine Denis.
Voilà, et toute son équipe, énorme travail. Laetitia Casanova, Sabrina Janson, Benoît Mugensturm, Lara Bochereau, Emma Evalité. Ça y est, tout le monde est cité.
Sébastien Guidi, c'est un dernier mot.
De mon côté, je remercie aussi Julien Tarot, mon camarade de travail, et Benoît Valentin pour tous ses conseils sur les choix musicaux.
Encore merci à tous les trois de nous avoir accompagnés pour cette longue séquence. Et si ça vous a donné envie de vous replonger au cœur de la guerre froide, je vous invite à retrouver l'intégralité de ce documentaire sonore derrière le mur sur la plateforme de podcast Cybelle.
Europe 1.
Tout Terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Virginie Riva, Hélène Kohl depuis Berlin et toute l'équipe du documentaire Derrière le mur que vous pouvez retrouver en intégralité sur l'application de podcast Cybelle, Sophie Larmoyer, Didier François et Sébastien Guidis. Un grand merci aussi à Kevin Ousty et Julien Blanc pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout Terrain podcast sur europe1.fr et demain à 13h, vous ouvrirez les carnets du monde avec Sophie Larmoyer.
Merci Fabienne Lemoyle. À samedi prochain, 13h 14h sur Europe 1.